Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, ces dégâts de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier sur Kinshasa. La route Kinshasa-Matadi en pleine réhabilitation est à nouveau endommagée après le marché de Matadi-Kibala. Du coup, plusieurs camions transportant divers produits en provenance du Congo central ne peuvent plus entrer dans la capitale. Lancement hier du plan de réponse humanitaire pour la RDC en 2023. Plan lancé par le gouvernement et la communauté humanitaire, il vise à mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins critiques des millions de personnes vulnérables nées du conflit armé, des épidémies et autres catastrophes naturelles dans le pays. Madame, Messieurs, bonjour. La route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, est à nouveau endommagée au même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire après le marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Conséquence, une centaine de camions transportant divers produits en provenance du Congo central ne peut plus entrer dans la capitale. Ce drame est survenu à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mercredi sur la ville, détruisant ainsi ce tronçon qui était en pleine réhabilitation. Reportage de Pascal Masserica.
Le bilan fait état de l'écroulement des avaloirs qui venaient d'être installés il y a quelques semaines par où était passé le dernier glissement de terre qui avait coûté la vie à une dizaine d'habitants et détruit plusieurs maisons. Non loin de là, sur les chantiers d'une firme chinoise, le flanc gauche, lorsqu'on vient de Matadi-Kibala, s'est également écroulé lors de la pluie diluvienne de ce mercredi sur une profondeur d'à peu près 30 mètres. Comme lors de la précédente calamité naturelle. La circulation des véhicules est encore interrompue sauf pour les piétons et les motos. Du coup, une centaine de conteneurs transportant divers produits venus de la province voisine du Congo central sont bloqués de l'autre côté au motif que leur passage risque de provoquer le pire. Comme si cela ne suffisait pas, le prix du transport à moto est passé de 1500 francs congolais à 2000 francs congolais de Mitendi à Matadi-Kibala.
Et puis ce drame survenu dans la capitale Kinshasa hier mercredi, le sénateur Florine Toumba a perdu la vie dans l'incendie de son appartement situé dans un immeuble de 3 niveaux à Limété industriel. Selon la bourgmestre de la commune de Limété, la cause de cet incendie n'est pas encore connue, les enquêtes étant en cours. Elle dit avoir sollicité urgemment l'intervention d'un camion anti-incendie. Réponse obtenue, le camion était en panne. Les dégâts sont énormes et le sénateur ne serait pas la seule victime de l'incendie de cet immeuble. Nathalie Alamba, bourgmestre de la commune de Limété, témoigne au téléphone de Blaise Shindani Kambala.
On m'a appelé par le colonel qui avait, il y a eu un incendie sur la 8e rue industrielle, je me suis rendu là-bas. Heureusement qu'il a plu abondamment aujourd'hui. Le fait c'est que il y a eu un dégât matériel énorme. Il y a eu une dame calcinée, méconnaissable. Et le sénateur qui était au 3e niveau, il s'est projeté. On l'a amené à l'hôpital. Au premier nouvel, on nous a dit que la situation était stable. Quelques minutes après, mon chauffeur est venu, on les a transférés à l'hôpital du cinquantenaire et alors il a succombé. Si au moins on avait un camion descendu, ça pourrait nous éviter ces morts. On a appelé les camions, on nous a dit que les camions étaient en panne. Si on avait un camion anti-incendie, on pouvait bien éviter ça parce que ce n'est pas loin de la commune. J'ai demandé même au gérant s'ils avaient l'extincteur, il a dit oui, mais après que la police soit là, on les a demandé, il n'y en avait pas. Quand on construit, il faut prendre des précautions. D'avoir au même extincteur, ça pouvait peut-être arrêter ce drame-là.
Lancé il y a plus de 5 mois par le chef de l'État, les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji ont effectivement démarré. Le gouverneur du Kasaï central s'est déplacé hier jusqu'à Matamba, à 20 kilomètres de Kananga, pour constater l'ouverture de la piste par l'entreprise d'exécution Toa Investment. La route va être asphaltée après les travaux en terre battue, assure le directeur de l'entreprise. François Kadima, qui était sur place, nous fait le point dans ce reportage.
La première phase, qui a démarré avec une route en terre battue, permettra d'ouvrir la voie pour le passage des engins lourds d'ici le mois de juin prochain, a indiqué Toa Investment. Victor, le directeur général de l'entreprise, souligne que la maintenance de la route sera assurée pendant le trafic jusqu'à l'étape de l'asphaltage.
Avant, on était dans l'optique de faire une route à terre, la maintenir, pendant que le gouvernement va chercher les moyens afin d'asphalter la route. Mais les nouvelles que le gouvernement nous a amenées, c'est que le gouvernement a trouvé les moyens pour asphalter la route. Et ça peut aller jusqu'au mois de juin. Après, ça nous allons laisser des équipes de maintenance pour assurer les passages pendant que l'asphaltage vient d'une manière systématique.
Satisfait du début effectif des travaux, le gouverneur de province a appelé la population et les usagers à s'approprier de ce projet de salut pour le Kasaï Central. John Kabeya.
C'est un projet entendu. C'est le projet qui va dans les sens pour développer notre province du Kasaï Central. C'est l'espoir même de notre province. La population a compris qu'avec ce projet, nous allons booster notre province sur le plan de développement.
Une fois modernisée, cette route longue de plus de 200 km qui relie la RDC à l'Angola pourra désenclaver le Kasaï Central. Elle permettra les échanges commerciaux et ouvrira la voie vers l'océan Atlantique à partir du port de Lobito. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, le gouvernement et la communauté humanitaire ont lancé hier, 22 février, le plan de réponse humanitaire pour la RDC en 2023. Ce plan vise à mobiliser 2,25 milliards de dollars pour répondre aux besoins critiques des millions de personnes vulnérables nées du conflit armé, des épidémies et autres catastrophes naturelles dans le pays. L'année dernière, seuls 48% des besoins chiffrés à 1,88 milliard de dollars ont pu trouver une réponse favorable, alors que les besoins se sont accrus cette année. Jules Ngala pour les détails.
Dans son communiqué de presse publié ce mardi, le coordonnateur humanitaire parle de besoins critiques de 10 millions de personnes vulnérables dans le pays. Et Bruno Le Marquis de préciser, la situation humanitaire de la RDC a été exacerbée les 12 derniers mois par un regain de violence, notamment dans la province du Nord Kivu, avec 600 000 nouvelles personnes déplacées depuis mars 2022, en Ituri, où des localités entières ont été et continuent d'être le théâtre des massacres par des milices, mais aussi au Sud Kivu, avec des maladies telles que la rougeole, qui continue de frapper des milliers de personnes. Le plus grand souhait restant le retour de la paix. Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Kapi.
Nord Kivu, des détonations, des bombes et des armes lourdes ont été entendues toute la journée d'hier dans le Massissi. Des combats ont opposé depuis tôt le matin les FARDC et les Mai Mai contre les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. C'est précisément dans les collines surplombant la localité de Mushaki, territoire de Massissi. Ces affrontements se sont déroulés à une dizaine de kilomètres de la cité de Sake. Ils ont provoqué le déplacement d'un grand nombre d'habitants de plusieurs localités qui ont trouvé refuge à Sake et Kamuranza. Pendant ce temps, une accalmie relative s'est observée toujours hier mercredi sur l'axe Kichanga-Mouisso dans le Massissi, mais aussi dans la région de Kishishe et Bambo dans la chefferie de Bwito, où la tension est restée vive entre la coalition M23 armée rwandaise et les FARDC. Et puis, Radio Kapi poursuit sa série de reportages sur la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Au terme de leur troisième conclave tenu le 20 juin 2022 à Nairobi au Kenya, les dirigeants des pays membres de l'EAC étaient tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la RDC. Une résolution prise dans un contexte de la résurgence de la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda qui occupe jusqu'à ce jour plusieurs villages et localités des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. 7 mois après le déploiement des contingents burundais et kenyans au Sud Kivu et au Nord Kivu, quelles sont les règles d'engagement de la force de l'EAC moins connue par le public? Martial Papi Mukeba.
L'accord sur les statuts des forces signé entre l'EAC et le gouvernement précise que le mandat de la force de l'EAC est de planifier et mener conjointement des opérations avec les FARDC dans la zone d'opération conjointe pour vaincre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, soutenir les FARDC dans la concrétisation du maintien de l'ordre public, soutenir la RDC en collaboration avec les agences humanitaires pour poursuivre l'aide humanitaire aux déplacés et l'appui au programme PDDRCS. 4 mois après le déploiement au Nord Kivu des soldats kenyans qui ont également le commandement de la force de l'EAC, ce contingent a déjà mené quelques patrouilles d'IRN conjointes avec les FARDC à Goma en se déployant également à Kibumba et Rumangabo, des zones où le M23 et ses alliés s'étaient retirés entre décembre et janvier dernier. La société civile continue d'exiger de la force de l'EAC des opérations offensives contre tous les groupes armés dont la rébellion du M23. Dans un communiqué publié le 5 février, le gouvernement a rappelé que le mandat de la force de l'EAC est sans équivoque offensif. Tout cela alors que la validité du mandat arrive à terme ce 28 février 2023. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, quatre groupes Mai Mai actifs dans la chefferie de Bassoa, au nord du territoire de Lubero, nous sommes toujours au nord Kivu, viennent de signer un cessez-le-feu pour faciliter les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la zone. Cette résolution est contenue dans un communiqué conjoint qui a sanctionné le dialogue de paix organisé le lundi à Lubero Centre sur initiative de l'administrateur et la société civile du territoire de Lubero. Martial Papi Moukeba.
Les groupes armés signataires de ces communiqués sont FPPAP, IPLC, Mai Mai Juvenal et Mai Mai Léonard. Dans ces communiqués, ces groupes armés s'engagent notamment à un cessez-le-feu immédiat suivi d'un retrait des villages sous leur occupation avant le déploiement des FRDC dans ces zones. Le retrait de ces groupes armés va permettre le retour des déplacés dans leurs villages et le déploiement des matériels ainsi que du personnel de la CENI pour le lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au nord du territoire de Lubero, précise le communiqué. Selon des sources administratives locales, au moins 150 000 personnes, soit environ 20% de la population de la chefferie de Bassoa du territoire de Lubero, sont en déplacement depuis plusieurs mois suite aux affrontements entre les groupes armés actifs dans la zone. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Au sud Kivu, le chef de la collectivité chefferie de la plaine de la Ruzizi et député provincial coopté pour le territoire d'Uvira sensibilise la population locale à s'engager massivement dans ce processus électoral, notamment dans l'enrôlement des électeurs et à éviter la discrimination des uns par les autres. Le Mwami Richard Nijimbere, Kinyoni 3, est en séjour depuis une semaine dans son entité où il a rencontré mardi la population du groupement. On l'écoute au micro de Fiston Ngoma Mayabala.
C'est un processus très important pour la population puisqu'il permet à cette dernière d'avoir des cartes. Ces cartes vont leur permettre de se choisir des nouveaux dirigeants. C'est pourquoi en tout cas nous lançons un appel à toute la population de notre entité d'aller massivement se faire enrôler pour que demain elle puisse se choisir de nouveaux dirigeants et surtout les bons. Nous déplorons les cas de violence qu'on a déjà enregistrés dans certains centres à Lubérizi où notamment certains jeunes sont très violents et sont en train d'interdire à certaines personnes d'accéder à des salles d'enrôlement puisque ils appartiennent à telle ou telle tribu. Nous condamnons cela fermement et nous demandons à ces jeunes d'apaiser leurs tensions. S'ils trouvent qu'il y a des problèmes ou alors que le processus n'est pas bien suivi, moi je pense qu'il y a des services habilités à remettre les choses dans l'ordre. Donc nous demandons surtout à cette jeunesse de la plaine de prendre conscience de cela et que le mieux serait de ne pas perdre le temps dans des futilités ethniques, des tribalismes et de se concentrer sur le développement de nos entités.
Actualité internationale.
Madagascar, le cyclone tropical dénommé Freddy, qui a frappé mercredi une partie de l'île, a tué 4 personnes selon le nouveau bilan communiqué par les autorités chargées de la gestion des catastrophes de Madagascar. Alors que mardi, un homme de 27 ans s'est noyé près du port de Mahanoro dans la montée des eaux, mercredi, la tempête suivie des vents violents a touché la terre, faisant 3 victimes. Le cyclone a touché environ 16 000 personnes selon les chiffres du Bureau national de gestion des risques du pays. Plusieurs attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord du Burkina Faso ont provoqué la mort d'au moins 70 soldats burkinabés entre le 17 et le 19 février en cours. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré lors d'un putsch fin septembre 2022. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de votre attention.